Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florian, votre enseignant en sciences économiques et sociales. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble les sources de la croissance économique, l'activité économique et sa mesure.
Bonjour, Éloi Laurent.
Bonjour.
Éloi Laurent, vous êtes économiste, les auditeurs de là-bas vous connaissent déjà un petit peu puisque vous étiez venu parler de votre livre sur les mythologies économiques avec Daniel Mermet il y a 2 ans. Et aujourd'hui, en fait, vous poursuivez ce travail de déconstruction d'un mythe du catéchisme libéral, c'est-à-dire la croissance économique. Voilà votre livre, « Sortir de la croissance, mode d'emploi », qui paraît aux éditions des Liens qui libèrent. Alors commençons par le début, Éloi Laurent, pouvez-vous nous expliquer en quoi la croissance économique est un mythe ?
Alors la croissance économique n'est pas forcément un mythe, c'est-à-dire que c'est une réalité au sens où c'est un vrai indicateur, qui est le PIB, qui a été inventé à un moment historique précis, qui est le moment où on a voulu prendre la mesure de la Grande Dépression aux États-Unis. C'est une commande du Congrès américain. Le Congrès américain va voir un économiste qui s'appelle Simon Kuznets à Harvard et lui demande de construire un indicateur qui puisse refléter le choc systémique que constitue la Grande Dépression. C'est-à-dire qu'on a évidemment l'idée que le marché boursier s'est effondré, que certains secteurs de l'économie vont très mal, mais la perception, c'est qu'en fait, c'est un problème global dans l'économie. Il n'y a pas d'indicateur global qui permet de prendre cette mesure systémique. Et donc, Kuznets commence à travailler et en 1932-34, rend sa copie au Congrès américain et propose la première maquette préhistorique du PIB. Et évidemment, ce que montre cette maquette, ce que montre cet indicateur, c'est qu'en effet, il y a un effondrement de l'économie américaine. Donc, c'est un moment historique précis, c'est pas un mythe, ça a vraiment existé. À peu près 10 ans plus tard, à la conférence de Bretton Woods en 1944, le PIB devient l'étalon du développement, c'est-à-dire qu'après 1944, un pays développé, ce sera un pays qui a un PIB important, et un pays riche ou développé ou avancé, ce sera un pays qui a un niveau de PIB par habitant élevé, d'accord ? Et puis de 1944 à aujourd'hui, le PIB s'insinue, s'insère dans toutes les politiques publiques, en particulier dans le débat budgétaire, par exemple en France, et devient une réalité statistique extrêmement forte qui oriente les politiques publiques. Le mythe, c'est les bienfaits de la croissance. La mythologie, c'est de penser que la croissance économique est la même chose que le bien-être humain, est la même chose que la soutenabilité environnementale, est la même chose qu'une nation qui connaît un progrès social, et en particulier la grande équation fausse, c'est croissance égale progrès. Ça, c'est un mythe. Et mon ouvrage s'attache à démontrer ce que c'est un mythe et à démontrer pourquoi au XXIe siècle, ça a probablement été, c'est moins vrai que ça ne l'a jamais été. C'est-à-dire l'idée sur laquelle la croissance est égale au progrès est probablement plus fausse aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été.
Notre génie de président Emmanuel Macron, il n'y a même pas 2 mois, discours d'ouverture du G7 à Biarritz, il dit...
Le deuxième grand enjeu de ce G7, ce sera la situation de l'économie mondiale. Et là-dessus aussi, ça vous concerne directement. Nous devons œuvrer pour avoir plus de croissance, créer davantage d'emplois et donc de mieux être dans nos sociétés.
Et tout est dans le...
On a tous les mythes que vous dénoncez.
Exactement.
En une phrase.
Et la clé de la phrase, c'est « et donc ». C'est-à-dire, vous avez le droit de croire dans la croissance économique, enfin plus pour ce qu'elle mesure, pour ce qu'elle est. Vous avez le droit de penser, il y a des statisticiens à l'INSEE, même des collègues dans le laboratoire d'économie où je travaille, l'OFCE, qui mesurent la croissance et qui pensent que voilà. Mais si vous franchissez le pas du « et donc », le mieux-être, là, vous êtes soit dans l'illusion, soit dans la mystification.
D'accord, oui, parce que c'est vrai que c'est l'une des idées reçues qui est martelée depuis longtemps, c'est que la croissance économique, ça veut dire plus d'emplois mécaniquement. Ça, c'est une des choses que vous réfutez dans votre livre.
Plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus une meilleure santé, une meilleure éducation, des institutions en meilleure santé, plus de confiance dans les institutions, plus de confiance entre les citoyens, et bien sûr, une harmonie avec la biosphère. Voilà, tout ça est de l'ordre de la mythologie. Tout ça est faux et je m'attache à démontrer de façon assez systématique en quoi c'est faux. Je suis certainement pas le premier à le faire. Simplement, le moment maintenant est venu de proposer des alternatives. Et c'est en cela que le livre se veut en tout cas un peu nouveau. C'est-à-dire comment à la fois montrer que des indicateurs alternatifs existent et montrer comment on peut utiliser ces indicateurs, non pas seulement pour changer les indicateurs, mais pour changer les politiques.
Oui, dans votre livre, vous avez une expression, vous dites « il faut qu'on arrive à compter ce qui compte ».
Oui. Oui, compter ce qui compte, c'est-à-dire ce qui compte vraiment. Prenons le début du XXIe siècle. On a devant nous tous les jours, de façon évidente, trois crises majeures. La première crise, c'est la crise des inégalités. On sait que les inégalités de revenus, mais pas seulement, aussi les inégalités de santé, d'éducation en France, entre territoires, ont explosé au cours des 30 dernières années. Le PIB, par construction, la croissance, par définition, par construction, ne peut pas mesurer les inégalités. C'est impossible parce que, par construction, ça ne mesure qu'une mesure agrégée, monétarisée des biens et des services qui sont échangés sur les marchés. Donc, la seule mesure que nous avons, c'est le PIB par habitant et, par définition, c'est une moyenne. Donc, ça ne peut pas compter les inégalités. Donc, la crise des inégalités, vous voulez y comprendre quoi que ce soit, vous oubliez la croissance et le PIB.
D'ailleurs, vous prenez l'exemple des États-Unis dans le livre. Vous dites, par exemple, qu'entre 1967 et 2013, le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 270%, alors que dans le même temps, le revenu moyen des ménages, seulement de 40%.
Et si vous n'avez pas cet élément-là, il est impossible de comprendre quoi que ce soit aux États-Unis d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce pays qui est un pays tellement fort du fait de la croissance est une nation fragile. C'est une nation qui s'effrite et par certains égards, c'est une nation qui s'effondre. Et le PIB ne vous permet pas de mesurer ça. Et évidemment, la fracture la plus nette et la plus visible aux États-Unis, ce sont les inégalités, mais pas seulement. Première crise, la crise des inégalités. Deuxième crise, les crises écologiques. Le PIB ne mesure rien des crises écologiques. Rien de la destruction de la biodiversité, rien de la dégradation des écosystèmes, rien du changement climatique. Absolument rien. Donc si vous voulez comprendre quoi que ce soit à ça, il va falloir procéder à d'autres mesures et à d'autres indicateurs. Et troisième crise, qui est en quelque sorte la résultante des deux premières, qui d'ailleurs sont interreliées, crise des inégalités et crise écologique, c'est le problème social écologique, c'est la crise de la démocratie. La crise de la démocratie, c'est qu'on a d'un côté une crise du temps court de la démocratie, qui est la montée des partis qui se révoltent contre l'état des inégalités, et de l'autre une crise du temps long de la démocratie, qui est l'horizon, et qui est qu'effectivement, à 10 ou 20 ans, si on va vers des crises écologiques massives, la question est qui va être protégé, comment, par quoi, quelles sont les protections collectives. Donc ces trois crises-là, si vous voulez, la croissance, le PIB, la croissance étant l'augmentation du PIB en niveau réel, soit chaque année, soit chaque trimestre, eh bien, ne peuvent pas nous aider à mesurer ces crises et donc à les surmonter.
Mais vous allez même encore plus loin dans le livre, puisque vous dites notamment sur la crise écologique que, en poursuivant en fait l'objectif d'augmenter le PIB, c'est même plus que ça ne nous informe pas sur les désastres écologiques de notre production, mais plutôt ça nous encourage à en faire encore plus en fait.
Ah bah très clairement, il y a une corrélation extrêmement forte, donc il y a un rapport statistique extrêmement fort, positif, entre augmentation du PIB et augmentation des émissions de CO2. C'est parfaitement clair. Et c'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de modèles économiques permettent de prévoir l'augmentation des émissions de CO2. C'est par rapport à l'augmentation des émissions de la croissance économique. Il y a quatre facteurs qui détermine les émissions de CO2, il y a le niveau de revenu par habitant, il y a la population, il y a l'intensité en énergie de l'activité économique et l'intensité en carbone de l'énergie. Sur ces quatre paramètres-là, évidemment, la croissance, le PIB en fait partie.
Honte à tous ceux qui défigurent la France en laissant ses abcès crever le long des routes et des paysages. Déchets, résidus, ordures ne peuvent-ils trouver d'autre place que dans ces décharges sauvages que personne ne contrôle? Et il ne suffit pas que ces immondices offensent notre vue. Si des arbres ont eu le malheur de pousser à proximité d'eux, ils sont en danger de mort. Et pourtant, les économistes sont formels. L'une des mesures de la richesse d'un pays, c'est le poids d'ordures abandonnées par habitant chaque jour. Record du monde, les États-Unis. Record d'Europe, la Grande-Bretagne. En troisième position, la France, devant l'Allemagne. Et le problème ne fait que commencer. Il n'est pas simple à résoudre. À Paris, par exemple. Imaginez qu'on déverse chaque jour, place de la Concorde, les ordures ramassées. Au bout d'un an, le tas atteindrait deux fois la hauteur de la Tour Eiffel.
En préparant l'émission, j'ai retrouvé une archive de vous il y a quelques années qui montre, je trouve, très très bien à quel point la mesure du PIB n'est absolument pas pertinente, notamment pour se rendre compte des inégalités. Vous dites, c'est la fameuse blague de Bill Gates qui rentre dans un bar, tout d'un coup, on devient tous millionnaires, en moyenne.
Oui, heureusement que je ne l'ai pas refaite là, parce qu'elle commence à être vraiment usée, cette blague. Mes étudiants n'en peuvent plus. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le PIB par habitant aux États-Unis, c'est 40 000 dollars. À cette aune-là, les États-Unis sont parmi les pays les plus riches de la planète. Vous enlevez, attention, les 10% les plus riches. Il vous reste les 90% les plus pauvres, qu'on appelle en anglais le bottom 90%. Donc le bas, ça fait 90% de la distribution. Bon, c'est-à-dire essentiellement tout le monde. Vous gardez 90% des Américains les moins riches, les États-Unis chutent immédiatement en termes de place de prééminence internationale. Derrière l'Italie. D'accord ? Sous l'Italie. Vous diriez à des Américains aujourd'hui, vous êtes moins riches que des Italiens, ils vous riraient au nez. Bah, enlevez les 10% les plus riches d'Américains et c'est ce que vous aurez. D'accord ? Donc c'est ça la blague. La blague, c'est que l'illusion des moyennes et l'illusion de cette mesure du PIB par habitant, c'est exactement ça. Et donc, pour contrer ça, il y a une quantité infinie d'indicateurs d'inégalité. Ça fait juste 50 ans qu'on travaille sur les indicateurs d'inégalité. Des économistes aussi importants que Anthony Atkinson, Amartya Sen ont travaillé sur des indicateurs d'inégalité depuis très très longtemps. Et donc, ces indicateurs d'inégalité, par exemple, très simplement, le revenu disponible des ménages, donc le revenu médian, c'est-à-dire celui qui divise la population entre 50% qui gagne plus et 50% qui gagne moins, qui est évidemment beaucoup plus intéressant que le PIB par habitant, hein, qui est totalement biaisé en faveur des plus riches, eh ben, vous donne des résultats totalement différents. Et vous montre, par exemple, qu'aux États-Unis, depuis 20 ans, c'est tout simplement une stagnation sociale. Et si vous remontez encore plus loin depuis 50 ans, on est dans une régression sociale. Et évidemment, si vous regardez le PIB et le PIB par habitant, vous ne voyez absolument pas ça, puisque c'est tiré par les plus riches. Mais c'est vrai aussi en France. Donc en fait, la question, c'est à quel moment est-ce qu'on va considérer que la réalité qu'on a en face des yeux au XXIe siècle nécessite de nouveaux instruments de mesure? À quel moment est-ce qu'on va faire le lien entre ces deux choses-là? Et le moment, je pense, est venu de le faire.
Est-ce que... Avec ce que vous venez de dire, on n'a pas justement la démonstration que le choix de cet indicateur n'est pas innocent. Il sert, et vous le dites d'ailleurs dans le livre, il sert à masquer des réalités qu'on veut masquer en fait. Il y a sans doute des forces qui poussent pour que justement on ne change pas d'indicateur, non ?
Alors, la grande question c'est quelles sont les forces qui poussent et comment, contre quoi lutter quand on veut sortir de la croissance comme je le propose ? C'est quoi la vraie puissance politique de la croissance ? C'est quoi la vraie force du PIB ? Politique, puissance politique. À mon sens, c'est le fait qu'il est encastré dans des institutions. C'est-à-dire, ce qui tisse, ce qui fait sa force, c'est bien sûr qu'il est enchâssé dans des idéologies, mais il est encastré dans les institutions, et en particulier dans une institution majeure pour la démocratie depuis le XVIIe siècle, qui est le débat du budget. La raison pour laquelle, en Europe, on a des parlements qui arrivent à conquérir leur autonomie, c'est parce que les parlements mettent la main sur le budget et sur les ressources de la nation. Donc, depuis le XVIIe siècle, en Europe, on a au moins, et ailleurs dans le monde, on a ce débat budgétaire qui est le grand rendez-vous démocratique, l'expression de la souveraineté, qui ne soit plus une souveraineté monarchique, mais une souveraineté populaire et au minimum nationale. Eh bien, les débats budgétaires, que ce soit au niveau des villes, des territoires, des régions, de la nation française, de l'Union européenne, sont absolument soumis, inféodés, à la croissance et au PIB. Et tant qu'on n'aura pas délogé le PIB de ce lieu politique-là, je pense qu'on ne fera pas de progrès. Et donc, la deuxième partie du livre est consacrée à faire 50 pages de propositions de réformes concrètes des procédures budgétaires. Ça peut paraître une petite chose, notamment par rapport aux grandes questions de changement d'idéologie qui agitent beaucoup les gens en ce moment, mais en réalité, je pense que c'est peut-être le pas le plus conséquent que nous puissions faire si nous arrivions à libérer le débat budgétaire en Europe et en France de la tutelle du PIB et de la croissance, je pense qu'on ferait un pas immense vers ce que j'appelle la transition du bien-être.
En ce moment se tient le débat budgétaire en France, les parlementaires sont en train de voter le projet de loi de finances, comme on dit, c'est-à-dire le budget, et ce budget est encore adossé aux prévisions de croissance. C'est comme ça qu'ils calculent tout ce qu'ils font. Par quel critère devrait-il remplacer ça, selon vous ?
Alors, vous avez raison, moi j'essaye de... parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je travaille là-dessus... Et donc, du coup, je suis sensible aux petits signes que je vois d'amélioration. C'est vrai qu'il n'y a pas de progrès substantiel et que les réformes qui ont été faites sont cosmétiques. Mais n'oubliez pas quand même qu'en 2015, on vote en France la loi Sas, du nom de Eva Sas, députée écologiste qui va porter la loi, et qui réclame l'établissement et la présentation d'indicateurs alternatifs au PIB chaque année. dans un cadre parlementaire. Le problème de la loi SAS, c'est qu'elle ne connecte pas ça avec le débat budgétaire. Donc du coup, c'est resté un petit peu en suspens et de fait, ça a été y compris instrumentalisé par le gouvernement, ce qui est un comble, pour grosso modo faire des fake news sur à quel point les politiques du gouvernement étaient formidables. Regardez les indicateurs alternatifs, avec un gouvernement qui choisit lui-même les indicateurs en question, comme ça c'est plus pratique. Donc ça a été un échec. Mais la loi est toujours là, elle a été votée à l'unanimité, on peut s'en servir pour connecter ça au débat budgétaire. Deuxième avancée, l'exercice du gouvernement de désamorçage du budget, des mesures fiscales défavorables à l'environnement. Donc, oui. Bercy a fait une conférence de presse il y a grosso modo 3 semaines en expliquant, voilà, dans le budget et avec des think tanks qui ont participé à l'exercice, voilà, dans le budget, toutes les mesures qui sont défavorables à l'environnement. Et le total, c'est grosso modo 25 milliards d'euros, ce qui n'est pas exactement négligeable. Bon, le problème là aussi, c'est que tout ça, c'est un début et qu'on est loin du compte, puisque de ça, de 25 milliards défavorables, on arrive à quelques dizaines de millions qui ont été supprimés dans le budget. Donc, on est très loin du compte. Mais... par exemple, cet exercice-là est inspiré de ce qui se passe en Finlande, parce qu'en Finlande, ils sont beaucoup plus sérieux et ils ont décidé de placer leurs finances publiques sous la tutelle de 2 objectifs qu'ils ont définis démocratiquement. Le premier, qui est que la Finlande ne doit pas être un pays où on discrimine les gens, quelle que soit la base de la discrimination. Et le deuxième critère, qui est le critère écologique de consommation raisonnable des ressources naturelles et de lutte contre le changement climatique. Et vous avez des ministres qui sont en Finlande tenus de vérifier que dans leur budget, il n'y a pas de mesures qui soient défavorables à ces 2 objectifs-là. Donc la France s'inspire de ça. On est encore très loin du compte, mais en fait, il y a énormément de choses qui y bougent. Dernier exemple, la Nouvelle-Zélande, qui en mai de cette année, c'est-à-dire il y a quelques mois, vote le premier budget dit de bien-être, où l'objectif là, c'est notamment un des objectifs centraux, c'est la santé des enfants. Et donc, qu'advient-il d'un certain nombre de politiques publiques quand on décide que l'objectif central, ça va être d'améliorer la santé des enfants? Vous vous rendez compte, par exemple, si à Paris, on avait un budget qui tout entier était déterminé par le fait de ce seul objectif de la santé des enfants, si vous voulez.
Vous avez commencé à parler de santé, j'en profite pour rebondir, parce que dans le livre, c'est un des retournements que vous proposez, un des mythes accolés à la croissance que vous réfutez, c'est le côté s'il y a eu du développement humain, c'est parce qu'il y a eu de la croissance. Vous, vous dites en fait le contraire. Il y a eu du développement humain, donc il y a eu du développement économique, en fait.
Très clairement. L'idée, c'est la croissance crée la richesse. Et donc, un des arguments qu'on oppose à la sortie de la croissance, c'est d'expliquer, mais vous n'y pensez pas, vous êtes fous. Si vous faites ça, il n'y aura plus de richesse à distribuer. Donc, en fait, vous tuez la poule aux œufs d'or et après, vous prétendez que vous allez répartir les œufs qui n'existeront plus. C'est exactement le contraire. C'est pas la croissance qui crée la richesse, c'est la richesse qui crée la croissance. Ce qui fait la croissance, c'est l'éducation, la santé, les infrastructures, la confiance dans les institutions. C'est ça qui fait la croissance économique. La croissance économique, c'est la mesure superficielle de tous les vrais déterminants, les vrais moteurs du développement humain depuis des siècles. Et vous pouvez, dans le livre, je donne une illustration statistique, empirique, de la mesure qu'on peut faire du développement humain, santé, éducation, revenu, et de voir la part qui revient à santé, éducation versus revenu. Santé, éducation sont beaucoup plus importants que le revenu pour déterminer le développement humain. Et donc, en fait, tout ça sous-tend, et je vous donne un autre exemple, les infrastructures. Les infrastructures américaines sont en train de s'effondrer. C'est quoi les infrastructures? C'est les routes, les ponts, les écoles, etc. Vous avez l'Association des ingénieurs américains qui donne à intervalles réguliers une note aux infrastructures. La dernière note en date, c'est D+, c'est-à-dire 7 sur 20. Donc, c'est des infrastructures qui sont décrites comme décrépites par les ingénieurs américains eux-mêmes. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la richesse des États-Unis est en train de s'effondrer. Ça veut dire que sous l'apparence d'une croissance économique à 3%, qui est tirée par les plus riches, à qui on donne des cadeaux fiscaux absolument invraisemblables, on retire en fait des moyens énormes au budget fédéral qui pourraient être alloués aux biens communs, aux routes, aux ponts, aux écoles, etc., qui sont en train de s'effondrer, qui dans 10 ans vont y compris faire s'effondrer le PIB. Mais on s'en fiche que ça fasse s'effondrer le PIB. C'est surtout que ça va faire s'effondrer la société américaine. Donc les États-Unis, si vous voulez, c'est le pays de la croissance qui est en train de vivre la fin de la croissance. C'est-à-dire, c'est le pays où on a inventé le PIB, c'est le pays qui a porté le PIB au plus haut comme indicateur de succès économique, et c'est le pays qui est aujourd'hui la démonstration la plus éclatante du fait que la croissance est une illusion. C'est une illusion.
So I want to thank Republican leadership because America is winning again. Lou said it before, but last week we announced that the U.S. economy grew at 4.1% last quarter. Nobody thought that was possible.
And if the Democrats got in, that number would be 1.2. It could even turn negative. It was going to go down. We were set to have, because of the regulations, it was choking. We were being choked. Don't forget, I approved the Keystone XL pipeline, and I approved the Dakota Access pipeline. 48,000 jobs in, like, my first few hours in office.
Vous l'avez dit, ça fait 50 ans qu'on parle de sortir de la croissance, des indicateurs, des... ça fait, nous, quand on évolue dans des sphères de pensée critique, disons de gauche, écolo, on a l'impression que le mythe de la croissance est tombé depuis un moment. Plus personne, on se dit, c'est la fameuse phrase, vous savez, des décroissants, pas de croissance infinie dans un monde fini. Ça, on l'a entendu des dizaines de fois. Mais en fait, on se rend compte...
C'est une phrase d'un économiste, hein,
oui,
de Kenneth Boulding.
C'est vrai, ouais.
Mais une fois de plus, cette critique-là, en effet, vous avez raison. Moi aussi, quand j'ai commencé à travailler, enfin, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, mais en particulier sur ce livre, je me suis dit, on a fait des progrès considérables, tout ça est tombé. Et puis surtout, ce sont des débats qui sont, disons, qui datent d'il y a 30, 40 ans. Et en fait, je me suis rendu compte, il y avait vraiment trois époques de la critique de la croissance. La première époque, c'est 19e siècle, 1848, John Stuart Mill, philosophe libéral anglais, qui propose la critique philosophique de la croissance. C'est stupéfiant de voir John Stuart Mill, qui est notamment l'inventeur de l'état stationnaire, donc l'ancêtre de la décroissance, stupéfiant de voir John Stuart Mill faire une critique extrêmement aiguë et pertinente de la philosophie de la croissance comme finalité de l'activité économique et de la coopération sociale. Donc ça, c'est le premier âge, la critique philosophique. Ça fait un siècle et demi qu'elle est là, presque deux siècles. Dans les années 70, vous avez deux économistes qui s'appellent Tobin et Nordhaus qui commencent à travailler sur la critique empirique de la croissance. C'est-à-dire, ils disent, philosophiquement, il est clair que c'est dépassé, est-ce qu'on peut construire des indicateurs alternatifs ? Et ils proposent la première maquette du premier indicateur alternatif au PIB, qui est un indicateur de bien-être économique, très imparfait, dans les années 70, début des années 70, 72. Voilà. Et là, on est aujourd'hui dans le troisième âge de la critique de la croissance, qui est l'âge politique. Et pour moi, cet âge politique, il est né avec un événement que d'aucuns balayent d'un revers de main en disant que ça n'a aucune importance, qui pour moi a beaucoup d'importance, qui a été le vote aux Nations Unies des objectifs du développement durable. En septembre 2015, c'est-à-dire vous avez unanimement les nations rassemblées sous l'égide des Nations Unies qui disent le succès d'un pays, ce qu'il faut viser, c'est plus la croissance du PIB, c'est 17 objectifs, parmi lesquels la croissance représente un demi-objectif, qui est la moitié de l'objectif 8, qui est travail décent et croissance économique, les deux étant en partie contradictoires. Et donc, à ce moment-là, ce tableau dans lequel le PIB existe, mais est à quelque chose de minuscule par rapport à ce qui nous intéresse dans une complexité qui est beaucoup plus vaste, pour moi, ça devient réalité. Et à ce moment-là, c'est l'âge politique, parce que ces objectifs ont pour ambition de guider les politiques. Ce n'est pas la recherche pour la recherche, ce n'est pas le but de construire des indicateurs pour montrer qu'on peut mieux faire que le PIB, c'est vraiment guider les politiques. Et on est là-dedans. Et une fois de plus, ce livre, c'est cette contribution-là qu'il entend faire, c'est-à-dire comment concrètement avancer.
The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change.
We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet, and a blueprint for success.
The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet.
Imagine there's no countries.
UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030.
Rentrons dans ce qui risque de fâcher. La conclusion que vous tirez de toute cette démonstration que vous faites dans le bouquin, et j'imagine que c'est quelque chose que vous pensez depuis longtemps, c'est pas la première fois que vous écrivez à ce sujet, c'est que le problème, en fait, le nœud du problème qu'on a actuellement avec le problème social, écologique, économique et écologique, c'est pas le capitalisme, c'est la croissance.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Le capitalisme est un problème. La question, c'est comment on le définit. Alors, quand Thomas Piketty, le Financial Times et la Harvard Business School disent qu'il faut dépasser le capitalisme, j'ai envie de m'intéresser exactement au message que ça sous-tend. C'est-à-dire que je dirais pas que ça me donne envie de défendre le capitalisme, mais ça me donne envie de m'intéresser concrètement à ce qu'on entend par sortir du capitalisme. Et donc à ce qu'on entend par capitalisme. De quoi veut-on sortir ? Comment sortir ? Première partie du problème, le capitalisme. Le capitalisme LE, ça n'existe pas. Il y a des capitalismes, d'accord ? Dans l'histoire, il a varié de façon extrêmement importante. Dans l'espace, il varie de façon extrêmement importante. Et les strates du système capitaliste sont elles-mêmes extrêmement variées. Donc, dans l'histoire, vous avez le capitalisme fordiste, hein, pour reprendre les catégories de l'école de la régulation, qui n'a absolument rien à voir avec le capitalisme high-tech d'aujourd'hui. Et donc, quand on dit sortir du capitalisme, lequel on vise, dans l'espace aujourd'hui, la Finlande est un pays capitaliste.
Personne n'est plus soutenable de la planète.
Mais c'est non seulement l'un des plus soutenables, mais la Finlande, c'est un pays dans lequel les inégalités sociales sont parmi les moins fortes de la planète, les niveaux d'éducation sont les meilleurs, les niveaux de santé sont les meilleurs, la préservation des écosystèmes est extrêmement poussée. Donc, je ne dis pas que c'est le capitalisme qui rend ça possible, je dis simplement que si on dit que le capitalisme est incompatible avec, par exemple, la préservation des écosystèmes, il va falloir expliquer les pays nordiques. Bon. Donc, c'est pas du tout une défense du capitalisme, c'est la précision du fait que l'argument qui consiste à dire, en fait, c'est ça mon argument principal. Si on sort du capitalisme, on sort de la croissance, c'est faux. C'est
oui,
tout simplement faux.
La croissance n'est pas consubstantielle au capitalisme. C'est l'exemple de la Chine, justement.
Et donc, il y a trois exemples. Le Japon. Un argument, c'est de dire le capitalisme a besoin d'une croissance perpétuelle pour exister, sinon il s'effondre. Sans quoi il s'effondre. Le Japon, ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de croissance au Japon. D'accord. Ils ont eu, le Japon, c'est un cas absolument passionnant, 30 ans d'une croissance à 7% par an absolument colossale et aujourd'hui quelque chose comme 1% de croissance par an. Il y a peu d'exemples dans le monde d'un pays qui a divisé son taux de croissance par 6. Le Japon est toujours un pays capitaliste. Ils n'ont plus de croissance, le capitalisme est absolument toujours en place au Japon et personne ne nierait que le Japon est un pays capitaliste. Ensuite, l'idée selon laquelle, si vous sortez du capitalisme, vous sortez aussi de la croissance. La Chine n'est pas un pays capitaliste, c'est un pays communiste. On peut discuter de ce qu'on, comme on voudra, du fait que non, en fait, c'est du capitalisme déguisé, mais c'est du capitalisme autoritaire, etc. La Chine est un pays qui est géré comme un parc d'attractions du point de vue de sa monnaie, c'est-à-dire c'est à peu près le club méditerranéen d'il y a 30 ans avec les petites boules jaunes et les petites boules rouges. Hein, vous entrez dans le parc, donc la monnaie n'a aucun lien à peu près avec les marchés internationaux. La Chine la manipule absolument comme elle l'entend. La Chine planifie absolument comme elle l'entend ce qu'elle a envie de planifier. Elle donne le droit ou pas à des entreprises de faire du business, qu'ont fait les entreprises de la tech qui sont arrivées dans les années 2000 pour dire aux Chinois, on va vous faire Facebook, Amazon, etc. Les Chinois ont dit, hors de question, on vous prend la technologie, on va faire Alibaba et Badou, toutes les autres, etc. Donc, qu'on ne m'explique pas que Alibaba, c'est une entreprise capitaliste au sens où Amazon est une entreprise capitaliste. Enfin, je veux dire, ça n'a littéralement pas de sens. Et en plus, la Chine arrive après un autre grand exemple où on a un régime qui n'est pas capitaliste et qui a pourtant ravagé les écosystèmes, qui est l'URSS. D'accord ? Donc, voilà. Et ensuite, troisième exemple, les pays nordiques. Les pays nordiques sont des pays capitalistes, la Suède, la Finlande, etc. C'est les pays qui sont aujourd'hui les plus enviable du point de vue du bien-être humain et de la soutenabilité.
Vous dites que ce sont des pays capitalistes, mais ce sont quand même des pays où une grande partie justement du produit intérieur brut est socialisé.
Bien sûr, mais parce que
est-ce que c'est pas ça qui les rend soutenables plutôt que leur côté capitaliste ?
Mais bien sûr, mais c'est ce que je vous dis. Je ne dis pas du tout que c'est le capitalisme qui les rend soutenables. Je vous dis juste qu'ils sont capitalistes, mais qu'en face de ça, ils ont mis une puissance publique. Et donc, les vrais débats qui m'intéressent, moi, c'est réglementation, redistribution, etc., etc. Et c'est ça le débat qu'on doit avoir sur le capitalisme financier aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises de la tech payent leurs impôts ou pas ? Est-ce qu'elles font sécession par rapport à des biens publics dont elles bénéficient ? Est-ce que on peut avoir un droit de regard sur les données personnelles, etc., etc. Voilà, tous ces débats-là. Et ça, c'est des débats qui ont à faire, qui, évidemment, mettent en face de la logique du marché et de la logique des intérêts privés, évidemment, une puissance publique. Et la question, c'est les moyens de la puissance publique, les instruments de la puissance publique, etc., etc. Voilà. Et à ce moment-là, on arrive au vrai débat, à mon sens, qui est la question de la sortie du néolibéralisme, qui est un régime dans lequel l'État est au service du marché.
Pour pousser à la concurrence.
Voilà. Et là, on est dans un tout autre débat. Et c'est un débat que j'avais déjà exploré dans les mythologies économiques.
Je reviens une seconde sur la Chine. Je vais lire une phrase que vous avez dans le livre que j'ai relu plusieurs fois parce que c'est encore une fois un renversement que vous proposez. On pensait que la Chine serait le dernier État à couronner l'avènement inéluctable du capitalisme libéral après la guerre froide. Elle fut en fait le premier pays de l'ère néolibérale autoritaire.
Oui. Ben oui, parce que la Chine, en fait, dans un chapitre consacré à la Chine qui s'appelle donc la Chine ou les trois flûtes sacrées, les trois flûtes sacrées, c'est une légende chinoise bien connue, et donc c'est flûte au sens de pipeau et au sens de mythe qu'on raconte sur la Chine. La Chine, c'est un truc unique. Hein. La Chine, c'est, vous avez pendant 40 ans, 15% de l'humanité propulsée à 10% de croissance par an. Vous pouvez faire tous les modèles théoriques du monde, vous pouvez construire tous les arguments théoriques, empiriques sur la croissance, c'est bien, c'est pas bien. C'est la plus grande expérience de croissance économique de l'histoire de l'humanité. Donc la question, c'est en bout de course, qu'est-ce qu'on a ? Et là, vous avez vraiment un vrai débat empirique, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres exemples que la Chine pour parler de la croissance. Et je dis, en bout de course, il y a trois mythologies de la croissance qui tombent. La première mythologie, c'est la croissance réduit les inégalités et augmente le bonheur. D'accord ? C'est faux, empiriquement, quand vous regardez les indicateurs. Donc l'idée de la courbe de Kuznets, qui est d'abord, vous avez des inégalités qui augmentent avec le développement économique, puis après, elles vont baisser miraculeusement, c'est faux, quand vous regardez la Chine, très clairement. Le bonheur baisse alors que la croissance augmente, et inversement, le bonheur réaugmente quand la croissance baisse. Donc première mythologie, les inégalités augmentent et le bonheur diminue avec la croissance économique. Deuxième mythologie, évidemment, la question des crises écologiques, qui est la croissance va résoudre miraculeusement les crises écologiques, ce qu'on appelle la courbe environnementale de Kuznets, c'est-à-dire plus vous augmentez votre niveau de développement, d'abord vous avez des dégradations environnementales importantes, puis après, miraculeusement, elles vont s'abaisser. Bon, c'est faux, la Chine est le pays le plus insoutenable de toute l'histoire économique. Aujourd'hui, consomme 25% de toutes les ressources naturelles du monde, c'est plus que tous les pays occidentaux réunis. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est une catastrophe d'abord pour les Chinois, il y a 1,2 million de Chinois qui meurent chaque année de la pollution de l'air, mais c'est aussi une catastrophe pour nous tous, et pour la biosphère en tant que telle. Et puis la troisième mythologie à laquelle vous faites référence, c'est le fait que la croissance économique, nourrie par le libéralisme économique, va conduire au libéralisme politique. La fameuse fin de l'histoire, tout le monde va converger, etc., etc. Et ce que je dis simplement, c'est que c'est faux. La Chine, en fait, on commémorait tristement les 70e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine par Mao à Tiananmen. En grande pompe, c'est le cas de le dire, en grande pompe militaire avec missiles et tout, et on voit à quel point c'est vachement une démocratie. Et si vous voulez, vous regardez sur les 70 ans d'évolution du régime, depuis 1949, en fait, fondamentalement, ça bouge pas. C'est-à-dire que le régime chinois arrive, en fait, grosso modo, à ne pas bouger, alors que tout autour change, que tout bouge en Chine, en fait, eux ne bougent absolument pas parce qu'ils deviennent de plus en plus efficaces du point de vue de l'État et que l'État est mis au service de finalités qui sont absolument pas, évidemment, le bien-être humain ni la soutenabilité, mais au contraire, la croissance économique à outrance. Et Hong Kong, aujourd'hui, c'est le nouveau Tiananmen, 20 ans après, c'est la nouvelle frontière de la démocratie et de la liberté chinoise. 1989, vous avez l'effondrement du mur de Berlin. C'est en novembre. En juin, vous avez Tiananmen. La même année, vous avez deux événements, l'un qui pointe vers le fait que tout le monde converge vers le capitalisme libéral, et l'autre qui, en fait, est le début de la dissidence chinoise, économique et politique. Et en fait, c'est aujourd'hui le modèle chinois qui s'impose, hélas, dans le monde entier. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la fin de l'histoire au sens où tout le monde a convergé, c'est qu'en fait, tout le monde est en train de converger vers la divergence chinoise. C'est-à-dire la Turquie, l'Inde, les États-Unis en partie, la Russie, la France en partie.
On est dans une forme de néolibéralisme autoritaire.
Tout à fait, converge vers ça. Qui sont des régimes dans lesquels le capitalisme est parfaitement là, la croissance est parfaitement là, la chose dont on sort dans ces pays, c'est de la démocratie. La grande sortie à laquelle on assiste, c'est la démocratie, y compris aux États-Unis. Mais on prend soin du capitalisme. Au Brésil, en Inde, on prend parfaitement soin du capitalisme, parfaitement soin de la croissance. Par contre, on est en train de sortir de la démocratie. Voilà. Et ça, effectivement, si vous êtes concentré sur la croissance, vous ne le voyez pas. Et le fait que ces régimes autoritaires soient croissancistes dit beaucoup de ce qu'est la croissance. C'est-à-dire qu'elle ne mesure pas les inégalités, elle ne mesure pas la démocratie, elle ne mesure pas la soutenabilité.
Sortir de la croissance, mode d'emploi au lien qui libère. Merci.
Merci.
C'est le bon moment pour donner un nouvel élan à notre croissance. C'est le bon moment pour renforcer la croissance. C'est le bon moment pour libérer la croissance. C'est le bon moment pour lever les obstacles à la croissance. C'est le bon moment pour activer un levier de croissance. Je tiens à vous féliciter. Je me demande où vous allez chercher tout ça. Parce que c'est une rhétorique inédite, originale, franchement neuve. Dans le ventre de ma mère, déjà, il me semble que j'entendais ça, j'entendais crise croissance. J'ai vérifié. Valéry Giscard d'Estaing tenait ce langage. Je le cite. Les derniers indices font apparaître la reprise d'une certaine croissance. Donc, la France est en train de sortir de la crise. Puis que j'étais en culotte courte, il y a eu François Mitterrand. On attend, on annonce encore pour le mois prochain, dans 2 mois, dans 6 mois, un retour à la croissance. Chirac reprenait le même refrain en mode volontariste. La croissance, il faut la faire. Elle est entre les mains de chacun d'entre vous. On a eu Nicolas Sarkozy, vous étiez à ses côtés pour aller chercher avec les dents, un point de croissance supplémentaire, vous avez œuvré avec lui, et il disait « il faut qu'on libère les forces de croissance ». François Hollande a brillé, comme d'habitude, par son conformisme. Il n'y aura pas de croissance sans confiance, il n'y aura pas de confiance sans croissance. Et jusqu'à l'actuel président, Emmanuel Macron, évidemment, qui, depuis Versailles, nous cause comme vous de croissance durable et de croissance partagée, qui sonne le tocsin, nous devons à présent libérer les freins à la croissance des entreprises.